Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simone Desavelles pour son roman Dégâts collatéraux, publié en auto-édition, et Raymond Hiss pour son roman Napoléon D d'Alger, publié aux éditions Jalon. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Berlin 89. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, nous allons commencer avec Simone Desavelles. Alors, Simone, Dégâts collatéraux est un roman dans un roman. Racontez-nous.
Oui, voilà, c'est un double effet, puisque le personnage principal est quelqu'un qui écrit des romans historiques. Mmh. Donc à l'origine, le roman est un roman, on va dire, policier, sans qu'il y ait des meurtres à toutes les pages, ça c'est sûr. Mmh. Donc on passe du vécu de l'auteur du roman historique à ce roman historique qui se passe dans un monastère au XIVe siècle dans le Val d'Oise.
Oui, c'est ça. Alors, Véronique Lavernie, votre héroïne donc principale, est journaliste dans Nancy, bien sûr, donc, et écrivaine dont on parlait. Elle a déjà publié quand même plusieurs romans. Alors, Charles, le grand amour de Véronique a disparu, là, tout d'un coup.
Oh là, c'était une terrible inquiétude pour elle de ne plus avoir de nouvelles. Il est parti en Australie pour un déplacement professionnel et elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. En plus, en Australie, des inondations catastrophiques ont noyé un tiers du pays. Et donc, on n'arrive pas à obtenir de nouvelles par des tas de moyens, puisque tout est bloqué de tous les côtés. Donc, elle ne sait pas. Et c'est une angoisse qui sourd dans tout cela. Et puis qui retentit un petit peu sur la partie de son roman elle intègre un petit peu ses ressentis dans ce qu'elle invente.
Oui, bien sûr. Alors bon, on ne va pas dévoiler, mais en même temps, on le sait dès le début, son grand amour, Charles, c'est un amour un petit peu, je veux dire, c'est son amant. Charles lui-même est marié. Hein.
Charles est marié, père de famille, il a une fille. Dont il l'entretient assez souvent. Enfin bon, c'est un amant très agréable, mais dont elle sait qu'elle n'a rien à attendre.
Voilà. Donc c'est un peu plus difficile pour elle d'entreprendre des recherches, puisqu'elle n'a pas de légitimité.
Voilà, donc il lui faut essayer de trouver des pistes. Bon, par le biais du fait qu'étant journaliste, elle a moyen quand même de trouver des réponses quelquefois en passant par son côté professionnel. Mais enfin, c'est pas toujours si évident que ça d'en savoir plus. Et puis, il y a l'épouse. Donc, elle aimerait bien comprendre, approcher un petit peu de l'épouse légitime pour savoir ce qui se passe.
Oui, oui, pour savoir si elle a des nouvelles, quoi, c'est ça.
C'est délicat.
Bah oui, pour le moins. Alors, Véronique est complètement dévastée donc, par la disparition de Charles. Elle n'arrive pas à émerger de son chagrin parce qu'elle ne sait pas en fait ce qu'il est advenu.
Oui, et puis vraiment aucune nouvelle. Un silence radio total.
Oui. Donc elle se pose des questions. Elle se demande s'il l'a quitté, s'il est mort.
Enfin, et puis elle qui est totalement seule puisqu'elle a perdu ses parents déjà depuis un moment. Donc elle avait un frère qui est décédé. Donc elle est vraiment totalement désemparée de cette absence.
Oui, oui. Puis les doutes, je veux dire, c'est la torture.
Oui.
Elle culpabilise.
Oui, bon, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour qu'il ne soit pas revenu, etc.
Voilà, c'est ça. Est-ce que je n'ai pas assez aimé? Est-ce que... Voilà, voilà.
Et puis les amours interdites, c'est pas toujours facile.
Non,
à
bien
assumer.
Sûr. Et puis, c'est le doute qui détruit, en fait.
Oui.
Hein, de pas savoir ce qui se passe. Donc, automatiquement, donc elle rumine. Hein.
Oui.
Elle rumine. Alors, heureusement, elle arrive momentanément donc à s'extraire de ses doutes et de son chagrin quand elle écrit son roman, qui se situe donc, comme vous le disiez, à la fin du XIVe siècle. Alors, tout part d'une légende qui raconte que la royauté de France serait la descendance du Christ. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, c'est-à-dire que j'ai rencontré, d'une façon très, très étonnante d'ailleurs, un huissier de justice de Pontoise, simplement parce qu'il m'est arrivé de rêver. Bon, j'ai tendance à faire ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Certains diront que c'est de la foutaise, mais bon, moi, je sais que ça fonctionne pour moi. Donc, pour vous, peut-être pas, mais pour moi, c'est bon. Et j'avais rêvé que je marchais dans un souterrain. J'étais habillée avec une espèce de grande robe jusqu'au pied et j'avais des rouleaux de parchemin sous le bras. J'allais à une remise de prix de poésie à l'Axo. Et je rencontre un ami professeur de guitare à qui je raconte l'anecdote et qui me dit « Attends, on a un ami qui arrive de Pontoise et qui vient chercher des renseignements sur le souterrain sur lequel il fait des recherches historiques. » Et donc on m'a mis en contact avec Xavier Glou, hein, qui est hélas aujourd'hui décédé, mais qui faisait donc des recherches sur ce... monastère sur lequel j'ai placé mon histoire.
D'accord, bah, c'est intéressant. Moi, j'avais déjà entendu parler de cette légende que la royauté française relevait de la descendance du Christ. Bon, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais dans votre roman, cette légende serait accréditée par des documents qui connurent quelques péripéties avant de réapparaître sous le règne de Charles VI durant la guerre de Cent Ans.
Voilà.
Hein, oui, donc Charles VI, c'est Charles le Fol.
Oui, qui était au départ un roi très aimé, mais qui a commencé à développer, disons, une maladie psychique sérieuse, pour laquelle il y avait déjà eu quelques petites attaques dans sa jeunesse. Mm-hmm. Et puis se sont produits des faits assez violents, comme par exemple le bal des Ardents. Oui. Où le roi et plusieurs hommes de sa cour s'étaient déguisés en gros en hommes de Cro-Magnon, quoi, vêtus de peau de bête, totalement maquillés et tout ça. Mais ils avaient donc sur le corps, c'était de la poix qui avait collé des fourrures. Et puis un des membres de la cour qui avait pensé reconnaître au moins un de ces hommes préhistoriques a approché sa torche. Ouais. Et le problème, c'est que ça s'est enflammé. Et puis le feu s'est propagé à tous les intervenants. Et le roi n'a pas été gravement blessé parce qu'une duchesse qui se trouvait à proximité a eu l'idée d'attraper ses jupons et d'étouffer les flammes à l'aide de ceci. Mais à côté de ça, il y a eu plusieurs morts et puis des gens qui ont été très, très gravement brûlés. Mmh. Et à partir de là, le roi a basculé donc, dans cette maladie. Était-ce
On ne peut pas savoir si
c'est... On ne sait pas trop, mais une schizophrénie ou quelque chose comme ça. Mais enfin, il partait là dans une incapacité de gérer quoi que ce soit. Quoi.
Oui, mais il avait des moments de présence quand même. Enfin
il reprenait sa lucidité après. Oui. Et il s'effarait justement de voir les troubles que sa maladie avait créé.
Oui, ouais. Oui. Alors, dans votre roman, donc, ces documents auraient été gardés par les Templiers, notamment
Au départ. Templiers.
Oui. Et oui. Bon, il faut dire aussi que Charles, quand il a ses périodes de troubles, la régence est occupée par sa femme.
Hein, oui, voilà. Alors là, c'est...
Oui. Qui plutôt préfère privilégier son pays d'origine, la Bavière, hein, bien sûr.
Voilà, oui. Isabeau de Bavière, elle transfère toutes les choses importantes, toutes les choses de valeur en direction de la Bavière.
Oui. Donc Charles a décidé de mettre ses documents à l'abri, voilà.
Oui.
Hein, oui. Alors c'est ainsi que la vie d'Anne de Belleville... Monial dans l'abbaye de Maubuisson, située à Saint-Ouen-l'Aumône, est bouleversée par une mission qui lui est confiée. Mais c'est énorme, cette mission.
Oui, surtout que c'est une petite nonne sans envergure particulière. Bon, c'est une abbaye royale, donc qui reçoit quand même des personnes d'un statut social très élevé. Mais bon, disons que les femmes n'étaient pas forcément éduquées comme elles le seraient aujourd'hui. Donc, elle est demandée par la mère supérieure, mais elle n'est pas sûre d'être à la hauteur pour ce qui doit se passer, quoi.
Oui, oui, parce qu'elle, c'est plutôt l'enluminure qui l'intéresse.
Elle, c'est une artiste. Mmh. Hein. Bon, naturellement, j'ai un petit peu fixé les choses à partir de mes intérêts pour tout ce qui est l'art, justement, sachant que je suis incapable de faire de l'enluminure, mais bon. Donc, c'est quelqu'un qui a tout un groupe de moniales sous ses ordres pour les aider à recopier, comme on le faisait à l'époque, quand l'imprimerie n'avait toujours pas été inventée.
Mais oui.
On recopiait à la main des textes liturgiques.
Oui, oui. Bon, il faut quand même rappeler qu'Anne de Belleville, elle n'a pas vraiment choisi d'être nonne. Hein, c'est ses parents qui ont décidé pour elle, pardon.
Hein. Disons que les filles de famille, autrefois, il y en avait une qui devait être employée à prier pour le bien-être de toute la famille, comme oui. Il y avait un fils qui devait être militaire, etc. Hein, c'était... On ne demandait pas aux personnes de choisir.
Oui. Alors, votre personnage, Edmond, que rencontre Véronique, est un historien délicieux de 80 printemps qui va aider donc Véronique dans ses recherches historiques. Il va lui ouvrir les portes de cette, pour accéder aux archives de cette abbaye. Parce qu'elles existent, ces archives, vraiment ?
J'ai réussi à obtenir le droit d'aller visiter justement les archives du SDAVO, Service départemental des antiquités du Val-d'Oise, qui se trouve dans l'ancien dortoir des Moniales, à l'abbaye même de Maubuisson. Mm-hmm. Et c'est à cette abbaye de Maubuisson que fut décidée, par exemple, la disparition des Templiers.
Oui.
Hein, c'est un lieu quand même très chargé, particulièrement. Et j'ai réussi à obtenir, alors par une voisine et une amie de mon ami qui m'a fait connaître ce site, j'ai obtenu de pouvoir aller visiter les souterrains de l'abbaye, donc dans le bâtiment voisin. Et puis j'ai été visiter la grange aux Dîmes et c'était assez curieux parce que je me présentais à l'abbaye, donc il y avait une visite, on payait une entrée. Et la personne qui me voyait arriver me disait « Pour vous, vous êtes chez vous, c'est gratuit. »
Ah bon ? Comme ça, de but
comme
en blanc ?
Oui.
D'accord, vous avez été reconnue donc.
Voilà. Et puis franchement, j'étais... avec la sensation d'être dans un endroit connu.
D'accord. Je sens que je vais aller dans quelques concerts avec toi. Hein. Si c'est gratuit chaque fois.
Alors, Anne et Véronique ont des points communs, en fait. Hein. Mm-hmm. Toutes les deux se sentent seules. Elles sont d'ailleurs seules. Oui. Et écrivent chacune leur journal. Alors, Anne, sur des parchemins, bien sûr. Et Véronique, dans un grand cahier brun à spirale. Véronique écrit son roman à la main pour être au plus près de l'époque où se situe son roman. Vous écrivez aussi à la main, vous ?
Oh là, avec une arthrose bien évoluée, ça devient difficile. Au départ, oui, mais en fait, je me suis rapidement lancée sur l'écriture à l'ordinateur parce que ça permet de jouer sur les synonymes, de relire et de pouvoir modifier. Parce que, bon, au départ, je n'avais pas d'ordinateur, donc j'écrivais à la main. Ensuite, je tapais sur une machine à écrire. Et s'il y avait une erreur quelque part, il fallait réécrire la page. Ah non, 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 je ne recommence plus ce genre de choses.
Et qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez dans le roman qui parle donc de cette abbaye, vous utilisez le français qui était en vigueur à l'époque, mais en même temps, vous faites attention pour que ce soit quand même compréhensible du lecteur sans être obligé d'aller systématiquement consulter un dictionnaire, hein, c'est
ça ? Oui, non, c'est la version allégée. Bon, j'y glisse des petites des termes qui sont que je trouve un petit peu originaux, puis quelquefois assez savoureux. Mmh. Et donc, il y a tout un glossaire à la fin pour que les gens puissent s'y retrouver. Parce que, bon, bah, savoir ce que c'est qu'une panse d'ail, oui, par exemple, bon, je pense que c'est pas tout à fait quelque chose de notre époque. Mais en fait, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'écriture des textes dans les enluminures.
Voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors, les dégâts collatéraux du titre font référence aux conséquences inattendues des actions, les nôtres et celles des autres. Comment voyez-vous l'impact de nos choix sur les autres et sur nous-mêmes ?
Ouf.
ça a des conséquences, forcément.
Nos choix, est-ce que ce sont vraiment des choix ou est-ce que on se retrouve piégé dans, comme ce souterrain avec des tas de garde-fous autour de nous qui vont nous empêcher d'accéder à tous les potentiels qu'on pourrait avoir envie de voir éclore, quoi.
Eh oui. Alors, vos recherches historiques, elles vous ont demandé du temps, je suppose ?
Oh là là, oui, du temps,
de l'énergie,
vraiment, et puis des recherches. Et j'allais en vacances chez mes amis de Pontoise, mm-hmm, qui me demandaient, quand ils partaient, eux, en vacances, ou ils étaient invités à un mariage ou des choses comme ça, de venir leur garder la maison et de leur garder la bibliothèque, laquelle était particulièrement fournie, justement, puisque Xavier était un fanatique de l'histoire de toute sa région. Donc j'avoue que j'ai écumé, comme je suis très friande de lecture, donc j'ai écumé toute sa bibliothèque. C'était vraiment très agréable.
Alors je ne dévoile rien puisque ça figure sur la quatrième de couverture, Dégâts collatéraux et le premier tome des aventures de Véronique. Est-ce que vous avez déjà commencé la suite ?
Alors, ça se produit en 4 exemplaires, donc les 4 sont déjà rédigés, sachant que je travaille à améliorer au fur et à mesure chacun. Donc, le premier, c'est donc bien Dégâts collatéraux. Ensuite, le titre, c'est Pas de deux, si on le prononce comme ça, ou Pas de deux, si on le prononce différemment.
Oui.
Donc avec un petit jeu sur justement ce sens particulier, mm-hmm, où on va voir Véronique avec la nouvelle amie qu'elle a rencontrée, donc qui était l'épouse de Charles, mm-hmm, hein, et où toutes les deux vont avancer dans une vie très, très dynamique à elles deux, quoi. Et puis avec une troisième personne, une personne rencontrée en Alsace qui tient un gîte,
Marie,
où elles ont,
oui,
le plaisir d'aller passer quelques moments très, très distrayants.
D'accord. Et les 4 tomes vont se conjuguer pareil que celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a aussi le roman dans le roman, il y aura toujours...
Il y a toujours un roman dans le roman. Donc dans le deuxième tome, on est avec quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce que vraiment c'est Henri IV. Mmh. On aura toute la période d'Henri IV jusqu'au moment tragique de la disparition du roi. Et puis le troisième et quatrième tome à la Révolution française.
Ah oui, quand même.
Sachant que là, j'ai la chance de disposer de documents d'époque que mon père avait collectés, d'une famille noble. J'ai pu me baser aussi sur cela pour travailler le texte de façon un peu le plus précisément possible, avec un fil rouge qui relie ces 4 tomes.
D'accord.
Donc, Dégâts collatéraux, Pas de deux, l'Institut Niaouli, qui est un institut de beauté, et puis le dernier s'appelle Fin de non-recevoir.
D'accord. Et les 3 autres seront comme dégâts collatéraux, c'est-à-dire qu'ils se suffisent dégâts collatéraux, il se suffit à lui-même, en fait. On peut
le lire indépendamment à chaque fois.
Oui, et les autres, ça sera pareil.
Oui. Sachant qu'il reste toujours un petit mystère, et que le mystère, appelle le livre suivant.
Un livre suivant, bah, bien sûr, effectivement. On a hâte de voir ce qu'il advient et de Véronique et des fameux manuscrits.
Et Véronique qui s'appelle La Vernille, alors qu'elle n'est pas tellement vernille.
Non, c'est vrai, mais bon, ça peut s'arranger.
Oui.
Merci Simone. Alors nous revenons après. Barbara, dis, quand reviendras-tu?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Simone Desavelles, venue nous présenter son roman Dégâts collatéraux, publié en auto-édition, et Raymond Hisse, venu lui pour son roman Napoléon dès d'Alger, publié aux éditions Jalon. Alors avant de parler du livre de Raymond, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle Berlin 89.
Assis à mon bureau, je regarde par la fenêtre. Songeur, je tourne la tête et l'examine, posé sur mon dictionnaire de rimes et de synonymes. Un petit triangle ridicule en béton. Avec ses 3 cm sur 2 de haut et ses 1 ou 2 cm carrés de peinture sur l'une de ses faces. Et c'est tout ce qui me reste de cette aventure. Et d'Anna. Les années ont passé, mais le souvenir reste encore intact en ma mémoire. 7 novembre, 1989, au petit matin. Mu par une force inconnue, je décide hardiment de partir seul, en minibus, en direction de l'endroit qui, d'après moi, allait révolutionner l'échiquier politique et social de l'Europe. Avec mes 20 ans pour seul bagage, l'idéal de liberté et de la jeunesse, je me dis qu'il faut y être, là, à Berlin, au mur de Berlin, qui va sûrement tomber. Faire fi des sempiternelles recommandations de mes proches. C'est loin, c'est dangereux, t'as pas d'argent, et puis t'es si jeune, et autres. Mais comment peut-on faire pour retenir un oiseau qui veut s'envoler? Résigné devant ma détermination, mes parents me couvrirent de baisers mouillés et de mise en garde. Mais ils me glissèrent cependant quelques précieux billets et très généreux firent le plein de mon minibus Volkswagen. Celui-ci, bien que brinque-ballant, passé d'âge, frappé du sigle « Love and Peace » sur fond vert et blanc, allait avoir la lourde tâche de m'emmener jusqu'au tréfonds de l'Allemagne. Acquis après quelques boulots d'été en atomisant les maigres économies faites sur mon livret A d'écureuil, il était devenu ma fierté. Et je dois dire aussi mon attrape-fille, oui, séduite par l'ambiance babacool, qui s'en dégageait. Quasiment 1000 kilomètres de Nancy à Berlin. Ah, c'était pour le moins aléatoire avec cet antique véhicule, mais « Oh, l'impossible n'est que du provisoire », disait mon père. Et j'appliquais sa formule à la lettre. Je transperçais l'espace au volant de mon bolide à presque 90 km à l'heure, là où je me faisais doubler sur l'autoroute par des bolides à plus de 150, voire 200 à l'heure. Oui, la vitesse sur route n'étant pas limitée en Allemagne, évidemment. Néanmoins, roulant toute la journée à la veille de cet historique 8 novembre, j'atteignis au soir les environs de Berlin-Ouest, l'enclave occidentale du monde libre. Au passage de l'ancienne frontière de RDA, j'ai découvert les différents bagages et chicanes, les différents barrages et chicanes désormais poussés sur le côté. Ainsi que d'ailleurs les chariots miroirs que les douaniers glissaient sous les véhicules pour vérifier s'il n'y avait pas de passagers indélicats en dessous. Mon moteur tournait comme une horloge, probablement subjugué par le retour au lieu de sa fabrication germanique. Enfin j'y étais. Porte de Brandebourg, auberge de jeunesse Jugendhaus, 5 rue Maisenthal, 4 marques la nuit, déjeuner compris. C'était l'adresse qu'un routard de mes amis m'avait donnée. Les yeux et le visage un peu fripés, je décidai d'y dormir, malgré la possibilité de rester dans mon minibus, car je ne l'avais pas encore équipé de couchette, comme je le fis quelques mois plus tard. Nous étions là une trentaine, pour la plupart des jeunes venus de tous les pays. Oui, jeunes et larges d'épaules, chantait la vie à cette époque. Jeunes, certes, mais tous conscients. Tous conscients d'être à la veille de vivre un moment historique. Et pas arrivé là, par hasard, non. Aussi, vers 16h, ce 8 novembre, nous nous dirigeâmes tous vers le mur, armés de marteaux, de pinces coupantes et de notre innocence. Oui, nous étions prêts pour la grande bascule vers l'inconnu. Allait-on se faire tirer dessus, se faire applaudir ou être confronté aux Vopos et aux autres gardes est-allemands prend pas la détente, qui eux défendaient leur mur. Peu d'entre nous semblaient venir d'un parti ou d'un syndicat quelconque, mais tous faisaient partie du grand syndicat, du Parti de la Liberté, ça, j'en étais sûr. Parmi mes apprentis manifestants, il y avait cette fille, que j'avais tout de suite remarquée pour sa gueule d'ange et son air rebelle, Anna. Le ciel était couvert. Un épais brouillard semblait s'être formé à cet endroit précis dans lequel nous flottions, aux côtés d'autres personnes aux contours imprécis et vagues. « Rendez-vous au pied du mur !»« Rendez-vous », c'est un nom français devenu international. Le même nom dans toutes les langues du monde, un leitmotiv qui fleurissait sur toutes les bouches de la jeunesse du continent. Quand vers 5h du soir, le brouillard se leva, nous fûmes stupéfaits de nous retrouver des milliers. Des jeunes, mais aussi des vieux, des ouvriers, mais aussi des professeurs, des intellectuels, des artistes, des citoyens lambda. Le monde était avec nous. Pas étonnant que nous soyons si nombreux. Les premiers coups de pioche résonnèrent bientôt dans l'air épais comme de la ouate, sous les cris et les acclamations de la foule. La même scène se répétait tous les 10 mètres, à l'endroit des jointures des murs sous les holà. Pris d'une furie dévastatrice, je tapais à mon tour sur le mur avec mon marteau, aux côtés d'un colosse en marcel armé de sa pioche. Par hasard, Anna se retrouva à mes côtés et cisailla les quelques barbelés qui restaient encore à l'aide d'une pince coupante. Bientôt, le visage ahuri d'un jeune Vaupos apparut dans la fente qui s'élargissait peu à peu. Dépassé par la situation surréaliste et non prévue dans son manuel militaire par ses supérieurs, il semblait ne pas comprendre ce qui se passait. Bien qu'armé, il ne dirigeait pas son fusil vers nous. Son visage juvénile et poupin exprimait la joie et la crainte, tout ensemble rassemblés. On lui demanda son nom. Il répondit « Kurt Müller ». Nous déclinâmes nos prénoms. Anna lui sourit et lui glissa une boîte de coca tirée d'un panier qu'il saisit sous les hurrahs de la foule. Puis le colosse en marcel et avec sa pioche reprit son travail d'élargissement pendant que Kurt, interloqué, regardait la scène. Quelques instants après, deux Français sautèrent sur le mur, accrochèrent une corde que nous tirâmes à plus d'une dizaine. Dans un fracas énorme, le pan entier du mur, bariolé de slogans, s'écroula dans un nuage de poussière. En hurlant de joie, Anna et moi-même nous nous précipitâmes, inconscients, dans les bras de Kurt Müller et entonnèrent une danse joyeuse avec lui, enivrés par l'atmosphère délirante qui nous entourait. Ça y est, le mur de Berlin était tombé, ce 8 novembre 1989. Tout autour de nous, les pans de ce mur s'écroulaient, un à un, sans réaction de la part des gardes. Quelques-uns fraternisaient, d'autres se tenaient prudemment à l'écart. Depuis 1961 qu'il s'élevait au milieu de Berlin et avait causé tant de morts et de divisions, c'était un miracle de l'avoir fait tomber en une seule journée et sans victime. Oui, il était tombé, ce maudit mur. Et nous sommes tombés, nous aussi, dans les bras l'un de l'autre, et pour toute une nuit d'amour avec Anna, dont je ne connaîtrai jamais même son nom de famille, puisque nous ne sommes jamais revus. Une nuit étrange, une nuit de folie, tous deux enlacés. Seul ce petit morceau de notre mur, cassé au marteau, coupé en deux, pour se souvenir de chacun d'entre nous, peut encore me le rappeler en cet instant. Je sais juste qu'Anna jouait du piano merveilleusement bien. Et que sur celui de l'auberge de jeunesse, elle me jouait au petit matin, avant de disparaître. Nous étions jeunes et larges d'épaules. Nous attendions que la mort nous sauve. J'appris longtemps après, et par hasard, qu'il avait retrouvé Kurt, le jeune Vaupos du mur de Berlin, et qu'ensemble ils avaient fondé une famille, réunissant symboliquement l'Ouest avec l'Est. Anna. On the road again, again.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Raymond, votre Napoléon D d'Alger est une uchronie. Alors pour nos auditeurs, vous voulez bien rappeler ce qu'est une uchronie ?
Alors une uchronie, bien, on la voit dans le prologue, puisque dans le prologue qui commence en 1962, un nouvel écrivain qui s'appelle Albert Omar Camus reçoit Alger, comme on dit encore quelquefois, reçoit un prestigieux prix littéraire pour un roman assez curieux, où il imagine qu'en 1815, Napoléon, sur le Northumberland, qui l'emmène vers une île de l'Atlantique Sud, dont tout le monde a oublié le nom, il imagine qu'il arrive dans cette île, où il meurt quelques années plus tard, relativement oublié. C'est une uchronie, puisque chacun sait que le convoi de Napoléon a été attaqué par des corsaires barbaresques, et Napoléon est arrivé à Alger, libéré par ses corsaires.
Voilà.
Bien sûr, c'est ça une uchronie. Hein.
Alors, votre roman donc débute le 2 Safar 1382, d'après le calendrier égérien, soit pour notre calendrier habituel, le 5 juillet 1962. Alors, qu'est-ce que le calendrier égérien, pour ceux qui ne le savent pas ?
Le calendrier égérien, c'est le calendrier utilisé par, dans les pays musulmans et qui commence au 6e siècle à l'Égypte, c'est-à-dire le moment de la fuite de Mahomet de la Mecque.
Et donc, le calendrier égérien débute, lui, le 16 juillet 622. C'est pour ça que...
Oui, c'est ça, oui. Ah. Oui.
Alors, votre récit débute donc le 5 juillet 1962 par un article dans le journal de Moniteur, article signé par Michel Droit, hein, où il parle de la fête qui va avoir lieu.
Oui, oui. Alors, en 1962, donc, c'est le président Charles Ahmad Medbella qui était au pouvoir. André Malraux est ministre de la Culture, Giscard d'Estaing est ministre de l'Économie, Bouteflika est ministre, je crois, des Affaires étrangères, et on célèbre la victoire du général Marcel Omar Bijar sur les rebelles de Kabylie. Et donc il y a une cérémonie qui se déroule dans le palais des Tuileries, où le général est décoré, et où la foule entame ensuite l'hymne national, en arabe, je ne connais pas l'arabe, mais en fait, qui commence par, vous savez, allons enfants de la patrie, etc. Quoi. Voilà. Et en même temps, c'est une grande victoire aussi pour le président Benbella, puisqu'il a scellé définitivement la réconciliation avec l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire avec l'Angleterre.
Alors, vous n'avez peur de rien, parce que vous réécrivez toute l'histoire de France sur plus d'un siècle. Donc, ça recommence en 1815, en fait.
Oui, hein, et ça se termine en 1871, lors de la Semaine sanglante à Paris, où les royalistes qui ont pris le pouvoir sont massacrés par les républicains, aidés par les garibaldiens et par les colons algériens.
Parce que là, il faut quand même dire que bon, l'épopée de Napoléon le fait redevenir un chef tout-puissant.
Et oui, bah, c'est-à-dire qu'arrivé à Alger, délivré par ses corsaires barbaresques, bon, on pensait qu'il s'appelle toujours Napoléon, il ne va pas en rester là, et le dey d'Alger est opportunément assassiné quelques temps plus tard, et Napoléon se dévoue pour la patrie et décide de prendre le pouvoir pour éviter que le pays tombe en déliquescence. Et voilà. Et curieusement, le même jour, le jour où il est délivré par ses corsaires, dans les Aurès, un jeune berger qui laissait paître ses troupeaux dans le désert découvre une inscription sur un monument, une inscription en latin, qui parle tout simplement de Timgad. Et intrigué par cette affaire, il va aller retrouver Napoléon à Al-Jazir, à Alger, et va lui révéler qu'une vieille légende arabe dans les Aurès dit que celui qui remettra au jour la ville de Timgad, la ville de Trajan, régnera à nouveau sur les deux rives de la Méditerranée. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et ça donne des idées à Napoléon, en particulier 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard? On est en 1830. Et qu'est-ce qui se passe en 1830? Bah si.
Bah bien sûr.
Eh oui, oui.
Vas-y,
je peux continuer. Oui.
Bah,
alors, en 1830, Charles X décide de lancer l'expédition d'Alger.
C'est moins connu dans l'histoire de France.
C'est moins connu, oui, parce que bon, ça se termine en catastrophe.
Voilà.
Il faut dire que, ayant pris le pouvoir à Alger, Napoléon a rallié de nombreux anciens soldats, des généraux, des militaires qui ne supportent pas le régime monarchique, et il a reconstitué une armée, en particulier une flotte puissante à Alger. Donc l'expédition d'Alger se termine en catastrophe. Oui. Avec le ralliement d'ailleurs d'un grand nombre de soldats à Napoléon. Oui. Et l'année suivante, eh bien, évidemment, il débarque en France.
Ben oui, bis repetita, il débarque à Marseille.
Pour la deuxième fois, et cette fois-ci, ça marche.
Oui, c'est ça. Alors, vous faites un joyeux brassage entre personnages réels et personnages de romans. Vous prenez vos aises avec les personnages historiques et vous faites apparaître des personnages de romans célèbres dans votre histoire, comme Jean Mauzan qui est en fait Jean Valjean.
Oui.
Éponine qui est Cosette.
Oui, oui, oui.
Hein, ça vous amuse bien?
Ça m'a beaucoup amusé de jouer avec la littérature, parce qu'en plus de l'Uchronie, il y a un jeu, c'est-à-dire que bon, il y a un personnage qui joue un rôle incertainement, qui s'appelle Hector Bianchon, qui est connu parce qu'il était le médecin particulier de Balzac, et qui va être amené à soigner également Napoléon et qui lui l'amènera à survivre jusqu'en 1840. Mais cet Hervé Bianchon, Balzac l'a utilisé indûment dans ses romans pour faire un de ses personnages. Il en est de même de Victor Hugo, qui a pris des héros comme Georges Pompmercy, le général de l'artillerie de Napoléon, mmh. et en effet un misérable qui survit après la bataille de Waterloo. Mmh. Donc c'est tous ces écrivains célèbres qui n'ont pas hésité à abuser, à user de héros et de personnages réels pour en faire des personnages de leurs romans. Mmh. Ça aussi, c'est un aspect un peu chronique.
Oui, c'est vrai. Alors, votre roman est foisonnant de personnages secondaires soignés. Mais en plus, vous créez tout un univers qui rend le roman crédible. Loi, mœurs, littérature, musique, peinture. Ça a demandé un travail considérable de...
Oui, bien sûr. Le tout, c'est d'assurer la cohérence. C'est-à-dire que l'Uchronie, c'est un travail de faussaire. Un faussaire, pour être cru, il faut qu'il y ait quand même des éléments de vérité. Mmh. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi, que Napoléon a été délivré par des extraterrestres ou des choses comme ça. Il faut rester proche de l'histoire. Et ça doit amener quelquefois le lecteur à se demander, à se frotter les yeux et à se demander si, comme on dit en Lorraine, si c'est du lard ou du cochon et quelle est exactement la vérité. Et il faut garder quand même un cadre géopolitique cohérent. Ainsi, par exemple, le fait que Napoléon épouse la fille du sultan Mahmoud II et conçoive une alliance de revers contre l'Autriche est parfaitement cohérent.
Mmh. Alors, à la lecture de votre roman, on sent nettement que vous vous êtes bien amusé. C'est drôle, enlevé, moi je trouve. J'ai beaucoup aimé. Cependant, il doit falloir un certain temps de préparation et de recherche historique. Vous travaillez comment pour ne pas mélanger, pour prendre les faits historiques et les transformer?
J'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour l'histoire. Napoléon n'est pas mon personnage préféré, hein, je le dis tout de suite. Mais j'ai réussi, Internet aide beaucoup et Wikipédia aussi, hein, parce que plutôt que d'aller dans une bibliothèque pour lire un ouvrage de 400 pages pour en tirer une anecdote, dans Wikipédia on trouve quand même pas mal de choses. Mm-hmm. On extrapole souvent à partir de là. Mais j'ai retrouvé quand même... Sur Internet, par exemple, des choses qui sont peut-être difficiles à trouver dans le public, des livres qui parlent de la régence d'Alger, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Algérie, à la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe. Donc je me suis servi beaucoup de ça, notamment pour les descriptions d'Alger. Quoi.
Oui, bien sûr. Alors comment vous faites pour ne pas vous tromper entre vérité historique et vos affabulations, en fait?
Quelquefois, je suis obligé de me relire pour être sûr de savoir où je suis, quelquefois. Alors je fais des fiches, je compose l'histoire par séquences, une cinquantaine de séquences, où en quelques lignes je décris ce qui se passe exactement, et ensuite je les ordonne dans le cadre chronologique du roman. Et je fais des fiches sur les personnages, autant les personnages historiques que les personnages imaginaires. Les personnages imaginaires jouent un grand rôle dans cette histoire. Mm-hmm. Notamment un certain Samir Mansouri, vous êtes...
Oui, bien sûr.
Samir Mansouri, c'est un... Alors, là aussi, c'est proche de l'histoire. Beaucoup de chefs de pirates barbaresques étaient souvent des repentis, ce que les chrétiens appelaient des renégats, c'est-à-dire des gens qui avaient été capturés par les barbaresques et qui s'étaient convertis à l'islam et qui étaient rentrés dans le circuit, qui sont devenus chefs de guerre, capitaines de bateaux, pirates aussi à cette époque-là. Et c'est le cas de Samir Mansouri, c'est un Nîmois qui a été capturé et qui ensuite a réussi en se convertissant à l'islam, est rentré dans le circuit et est devenu un général de Napoléon. Et c'est lui qui délivrera Napoléon au large de Madère, sur le Northumberland. Et Napoléon découvrira curieusement que ce Samir Mansouri, c'est Dunant. Dunant, tout le monde le connaît. Oui. C'était son cuisinier pendant les batailles d'Italie. Celui qui a inventé le poulet maringot. Oui. Et sur ses vieux jours, Samir Mansouri ouvrira un restaurant à Alger, qui s'appellera le Maringot, évidemment. Mais quand il disparaîtra, il apportera avec lui, dans la tombe, la recette du poulet maringot. Voilà. Et on la recherche toujours.
Alors Raymond, vous êtes un iconoclaste. Hein. Transformer notre pays en Alfrance et déplacer la capitale à Alger, quand même, il faut oser. Vous n'avez pas peur des retombées de la part de vos lecteurs? Parce que quand même...
Ça dépend lesquels, mais... Oui, parce que Napoléon construit un État uni qui s'appelle Alfrance, contraction d'Algérie et de France, et il fait inscrire sur l'Arc de Triomphe le slogan, enfin la devise suivante, la Méditerranée traverse l'Alfrance comme la Seine traverse Paris. Et c'était un des slogans à l'époque de l'Algérie française, mais qui ici est complètement détourné.
Alors vous êtes où dans ce roman? Vous abolissez la papauté?
Oui, comme ça au passage.
Oui, comme bon, ça. Bon, il y a quelques curés quand même qui s'arrangent bien avec donc les mariages mixtes. Hein.
À l'origine,
on veut pas les faire, mais quand il y a un peu de financement derrière.
Oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que vous voulez parler de la polygamie?
Oui.
Ah oui, donc la polygamie est légalisée. Elle n'a pas tellement de succès du côté sur la rive nord, c'est-à-dire dans l'ancienne France. Elle est souvent le cas de gens qui en profitent pour régulariser leur maîtresse et les amener chez elles en compagnie de l'épouse légitime. Ça se termine souvent très mal parce qu'il faut assumer. Et combien de crises cardiaques, d'AVC au matin, bon, vous voyez, ce genre. Et par contre, paradoxalement, les mouvements féministes de cette époque ont profité de cette légalisation de la polygamie pour demander la polyandrie. Évidemment. Et c'était le cas de Georges Sand, oui, qui a pu ainsi épouser ses deux épouser Musset et Chopin. Et cette collaboration a donné lieu à un chef-d'œuvre, oui, un chef-d'œuvre de la musique, un opéra, oui. La Parisienne à Aljazaïr.
Bien sûr.
Ça continue.
Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de mariages mixtes parce qu'il y a encore des catholiques. Et il y a plein de musulmans, donc ces mariages mixtes, il y en a qui refusent le mariage s'ils ne passent pas par l'église, oui. Notamment quand c'est un mariage avec...
Alors ce sera le cas, Napoléon mort en 1840 quand même, il faudra parler de sa mort aussi, elle est assez édifiante. Et oui, lui succède son neveu Louis-Napoléon, sous le nom de Napoléon Selim, puisque Napoléon Ier avait pris le nom de Napoléon Soleiman, en hommage au sultan de Constantinople. Et ce Louis-Napoléon, qui passait ses vacances à Biarritz, est tombé amoureux d'une Espagnole, Eugénie Montijo. Il veut l'épouser, mais déjà, il est déjà marié à la fille du bey de Roanne. Et puis la maman, l'Espagnole, pas question d'épouser un musulman, pas question que ma fille soit bigame, enfin que mon gendre soit bigame. Mais ça finit par s'arranger à Saint-Jean-de-Luz. Le curé qui a besoin d'argent leur fait un petit mariage en catimini. Louis-Napoléon répudie son épouse musulmane. Et ce sera le début de la catastrophe.
Oui, c'est ça. Oui. Alors c'est jubilatoire de bouleverser plus d'un siècle d'histoire comme ça?
Ah oui, on s'amuse, je m'amuse beaucoup, j'espère que les lecteurs s'amuseront aussi.
Oui, parce qu'il n'y a pas que l'histoire de France, vous élargissez, parce qu'automatiquement ça a des répercussions sur l'Autriche, sur l'Angleterre, sur...
C'est le... L'Uchronie, c'est un petit peu comme le caillou qu'on jette dans l'eau, ça fait des vagues, et ça se répercute jusqu'à un certain point, tout dépend de la taille du caillou. Quoi.
Oui, oui.
Là, le caillou est un peu gros quand même. Alors, il y a l'histoire de la papauté, l'histoire de la rivalité avec l'Angleterre, il y a la Bavière qui intervient aussi là-dedans, puisque une fille de Napoléon épousera le roi de Bavière. Ça a des conséquences importantes, notamment sur les relations avec l'Angleterre, qui demeureront tendues jusqu'en 1962, jusqu'à la paix.
Mmh. Alors pourquoi avoir choisi cette période plus particulièrement?
Parce que je pense que... Bon, j'avais écrit il y a quelques années auparavant une nouvelle sur Napoléon. Dans un cadre uchronique, justement, c'était une demande d'un éditeur qui, pour l'année Napoléon, voulait produire un recueil de nouvelles uchroniques sur Napoléon. Donc j'avais écrit une nouvelle uchronique sur Napoléon. C'était beaucoup moins glorieux parce qu'il il sauvait Robespierre en Thermidor. Et Robespierre, qui n'aimait pas trop les militaires, l'avait exilé, enfin l'avait relégué comme gouverneur de la Corse. Parce qu'il considérait que pour les impôts, tout ça, le mouton ne gêne pas quand il est tendu par 100 mètres. Et Napoléon finira bêtement, réfugié dans les jupons de sa mère, il finira bêtement en 1821. Mmh. Alors que là, il mourra en 1840, ce qui est quand même autre chose. Et il mourra dans un petit village de Lot-et-Garonne qui s'appelle Verteuil-d'Agenais. Donc maintenant, tout le monde, dans le monde entier, quand on parle de la mort de Napoléon, Verteuil, oui, c'est connu. Alors, qu'allait-il faire là-bas? Eh bien, je continue. Lorsqu'il a pris le pouvoir, Il est venu en France. Il a échappé à un attentat fomenté par les royalistes, par les légitimistes. Et il en a éprouvé une haine farouche contre ces gens-là. Et il a éjecté tous les propriétaires terriens monarchistes de France. Et il les a fait remplacer par des colons venus d'Algérie. Et c'est le jeune berger dont on a parlé tout à l'heure qui avait découvert Timgad, qui se verra, il s'appelle Bachir Benflis. Il viendra avec sa famille occuper, à Verteuil-d'Agenais, le domaine de Roquemart, qui a été laissé libre par le baron de Gercourt, qui a émigré en Angleterre. Alors, on a vu ça, on a pu éprouver une certaine appréhension, comment ce berger, enfin ce personnage, va être accueilli par les indigènes du village de Verteuil. Eh bien, finalement, il est assez diplomate. Il réussit à se faire admettre, y compris du curé d'ailleurs. Et d'ailleurs, il épousera une jeune fille du village et il arrivera à faire sa messe de mariage dans l'église de Verteuil. Et donc, Napoléon, qui a gardé beaucoup de reconnaissance à ce berger, qui voit qu'il a guidé son destin finalement avec l'histoire de la légende de Timgad, viendra en 1840 à Verteuil et c'est là qu'il mourra.
Voilà. Alors, le temps passe très vite. Je me disais, vous êtes un adepte de la phrase d'Alexandre Dumas qui disait qu'on peut violer l'histoire à condition de lui faire un enfant.
Oui, c'est un peu brutal, surtout de nos jours, de violer l'histoire.
Oui.
Non, je pense que l'Uchronie... Alexandre Dumas n'écrivait pas d'Uchronie, hein, c'était non. Des romans historiques.
Bien sûr.
Là, l'Uchronie, c'est l'histoire telle qu'elle aurait pu être si un événement, si un grain de sable n'était pas venu la bousculer.
Oui, mais c'est vrai que c'est pratique, l'Uchronie. Par exemple, Vladimir Poutine, il utilise l'Uchronie en permanence.
Oui, par exemple, oui. Mais bon, il faut quand même la faire que ça déboule dans le passé. Comme une Uchronie dans le futur, on est encore dans un autre domaine.
Hein. Alors, le temps passe vite. On va parler maintenant du livre de l'Axou, du salon du livre de l'Axou.
Oui. Le samedi... 30 novembre, c'est le livre à l'Axou. L'ADIL, l'Association pour la Défense et l'Illustration des Littératures Lorraine, organise son premier salon à l'Axou. Ça se passe au CILM, le centre intercommunal L'Axou-Maxéville, à rue de la Meuse, c'est à Champlebeuf. Et vous pourrez rencontrer donc une quarantaine d'auteurs lorrains. Ben, il y aura Simone Desavel. Il y aura moi. Moi et Napoléon et moi.
Voilà.
Et une quarantaine d'autres auteurs qui viendront présenter leurs derniers ouvrages, donc dans tous les domaines, la poésie, l'histoire, oui, le roman, la bande dessinée, etc. Et donc, je vous invite, ça ouvre à 10h jusqu'à 18h, l'entrée est libre. Et je vous invite vivement à vous rendre donc le 30 novembre à l'Axou, à ce salon.
Venez nombreux donc.
Oui, venez nombreux.
Oui. Venez discuter avec Raymond sur Napoléon. Vous pourrez lui dire ce que vous en pensez. Alors, merci à Simone Desavel d'être venue nous présenter son roman Dégâts collatéraux, publié en auto-édition. Merci à Raymond Hiss d'être venu nous présenter son roman Napoléon dès d'Alger, publié aux éditions Jalon. Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle Berlin 89. Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons naturellement avec Waterloo par ABBA. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.